VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. RDC, le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division, la Linafoot, par crainte de violence vers la fin du mandat du président Joseph Kabila. Depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profite des matchs disputés par les équipes de la Linafoot ou par le 11 national, les Léopards, pour entonner des slogans hostiles au chef de l'État, dont le mandat arrive à expiration le 19 décembre. RDC toujours poursuit des négociations pour sortir le pays de l'impasse politique à quelques jours seulement de la fin du mandat du président Kabila, mais sans la coalition autour du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, Mouvement de libération du Congo. Le Front pour le respect de la Constitution, qui a quitté ses assises, reste sur sa stratégie qui consiste à mettre en garde contre la violation de la Constitution. Écoutez le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Pour le moment, la décision a été prise de confirmer notre retrait. Mais tous les amis qui nous appellent, tous les partenaires qui veulent que nous continuions à examiner la possibilité et les nouvelles conditions de notre participation, on va les examiner. Nous ne voulons pas fermer la porte. Le dialogue technique veut dire que nous voulons absolument arriver à fixer les échéances du calendrier électoral. Deux, que nous fixions des garanties pour qu'on ne vienne pas dans 4 mois, dans 6 mois, nous dire encore, on n'a pas eu les moyens, on n'est pas prêt, parce que nous puissions cette fois-ci nous mettre d'accord que le changement, l'alternance, va se faire par les élections, et pas toujours à travers des conciliabules, pas toujours à travers des dialogues. Il faut que le cycle électoral puisse être respecté.
Le sénateur Raymond Ramazani Baya du Mouvement pour la libération du Congo. Congo-Brazzaville, convention de l'opposition sur fond de division dans la capitale Brazzaville. Plusieurs dirigeants ont fait faux bond à ces assises organisées par Claudine Mounari et Charles Zachary Boao, deux leaders d'opposition. Ce conclave des opposants, le deuxième du genre, se voulait une plateforme pour continuer d'appeler le pouvoir à dialoguer et à mettre fin au harcèlement juridique. Mais ce fut plutôt une occasion de critique interne. On écoute l'intervention d'André Okumbi Salissa.
Sassou Nguesso n'est pas seul responsable de ce qui nous arrive. Notre responsabilité en tant qu'opposition est largement engagée. Nous sommes responsables de notre manque de constance, de notre porosité, responsables aussi de l'achat des consciences. La consolidation des institutions, la rupture, le vivre ensemble, le statut spécial de l'opposition... Quel chapelet le pouvoir n'a-t-il pas égrené pour mystifier certains d'entre nous ?
André Okumbi Salissa, opposant au Congo-Brazzaville. Gambie, toujours pas de dénouement de la controverse due au refus du président sortant Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite aux récentes présidentielles. Une délégation de 4 chefs d'État ouest-africains était hier à Banjul pour rencontrer les protagonistes de la crise et essayer de convaincre le président Jammeh d'accepter le verdict des urnes. Mais rien de concret n'est sorti de cette visite. Le parti présidentiel gambien a déposé ce mardi un recours pour contester les résultats du scrutin du 1er décembre, donnant M. Jammeh perdant face au leader d'opposition Adama Barrow. Des explications d'Abdourahmane Dia.
L'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, le parti du président Yahya Jammeh, demande à la Cour suprême d'annuler les résultats de l'élection car la commission électorale n'aurait pas compilé les résultats correctement. Selon la commission, Adama Barrow devance de quelque 19 000 voix Yahya Jammeh qui avait dans un premier temps reconnu sa défaite avant de se raviser. Quelques heures plus tôt, les forces de sécurité avaient bloqué l'entrée des locaux de la commission électorale, démontrant que Yahya Jammeh avait toujours contrôle sur l'armée et la police. Le président de la commission électorale dit même craindre pour sa sécurité. Les chefs d'État envoyés par la CEDEAO ont donc trouvé à Banjul une situation tendue. N'empêche, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'ils ont rencontré un Yahya Jammeh très réceptif, alors qu'Ellen Johnson Sirleaf du Liberia a indiqué que la délégation n'était pas venue à Banjul pour un deal, mais plutôt pour aider les Gambiens à trouver une solution vers une transition. Pour l'heure, rien n'indique que Yahya Jammeh est prêt à quitter le palais présidentiel au profit d'Adama Barrow.
A noter que le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Shambas, a condamné l'intervention des forces de sécurité gambiennes visant la commission électorale indépendante mardi, le jour de la visite de la délégation des chefs d'État ouest-africains. C'est un acte inacceptable, a déclaré un porte-parole de Ibn Shambas, rentré dans la nuit de mardi à mercredi de Banjul, où il a participé à cette mission pour tenter de convaincre le président Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite électorale et céder le pouvoir.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Guinée-Bissau, le gouvernement formé par Umaro Sissoko Embalo a finalement prêté serment mardi, près d'un mois après la nomination par le président José Mario Vaz d'un nouveau Premier ministre pour sortir le pays d'une longue crise politique. Les détails avec Nani Talani.
Les membres de la nouvelle équipe ont juré de remplir leurs fonctions avec droiture et abnégation. Elle est composée de 37 membres, dont 4 femmes. La plupart des membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Parmi les arrivants figurent le ministre des Affaires étrangères, Georges Malou, du Parti de la Rénovation sociale, première formation de l'opposition, et 3 dissidents du parti au pouvoir. Les finances sont confiées à Diao Mamadou Fadia, actuellement directeur du bureau local de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 2 petites formations ont reçu les portefeuilles du commerce et du tourisme. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Embalo a remis au chef de l'État une enveloppe contenant une déclaration de ses biens et a demandé aux membres du gouvernement de faire de même dans les 48 heures. C'est pour marquer une différence dans la gestion. Nous devons tous donner des preuves de transparence, surtout quand nous gérons des biens publics, a-t-il déclaré.
En Côte d'Ivoire, les candidats indépendants veulent créer la surprise aux prochaines législatives. Pour la plupart des dissidents de la coalition du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ces indépendants veulent changer le caractère monocolore de l'Assemblée nationale ivoirienne dont les 255 sièges de députés sont en jeu. Féro Bali, un journaliste ivoirien, estime que ces indépendants vont largement influencer le scrutin législatif du 18 décembre.
Nous espérons que les indépendants qui sont les plus nombreux d'ailleurs, ils sont les plus nombreux, ils constituent plus de la moitié des candidats actuellement retenus, que ces indépendants pourraient constituer un bon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, permettant un peu d'équilibrer les débats. Parce que l'Assemblée nationale de 2011 à 2016 était une caisse de résonance, il n'y avait aucun débat, tous les projets passaient comme des lettres à la poste. Et le nombre pléthorique d'indépendants pourrait permettre de constituer un bon groupe parlementaire pour équilibrer un peu les débats, pour enrichir les débats à l'Assemblée nationale, parce que d'un pays comme la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de retrouver un peu des lettres de noblesse démocratique au niveau des débats parlementaires, parce que c'est là-bas que se décident toutes les lois et tous les grands textes qui engagent l'avenir du pays. Et donc, il serait intéressant que ces nombreux candidats indépendants puissent tenir la dragée haute et donc pouvoir être une force politique qui compte au niveau de l'Assemblée nationale.
Le journaliste ivoirien Féro Bali, il était en ligne depuis Abidjan. Soudan du Sud, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé ce mercredi les violences sexuelles et ethniques qui ravagent le pays. Et il a réclamé le déploiement immédiat sur place d'une force régionale de 4000 hommes. Un appel lancé lors d'une session spéciale sur le Soudan du Sud, convoquée à la demande de 48 pays conduits par les États-Unis. Dans son discours à l'ouverture des débats, le haut-commissaire aux droits de l'homme Zeid Raad al-Hussein a déclaré que l'économie sud-soudanaise avait été dévastée par 3 ans de conflit, exposant quelque 4 800 000 personnes privées de ressources au danger de graves insécurités alimentaires ou de famine. Monsieur Zeid a également qualifié de choquant le niveau de violence sexuelle dans le pays. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population réalisée en juin, 70% des femmes réfugiées dans un camp à Djouba, la capitale, ont avoué avoir été violées. Et pour terminer le conflit en Syrie, le régime du président Bachar al-Assad a repris ce mercredi ses bombardements sur la dernière poche rebelle d'Alep, après une pause de plusieurs heures qui devait permettre l'évacuation de civils et de rebelles dans la deuxième ville du pays. C'est ce que rapporte l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.